C'est la nuit de la radio sur France Culture, une nuit qui fait suite à la journée qui vient de s'écouler, ça c'est une évidence. C'est une évidence, attendez Sandrine. Mais la journée, c'était la journée mondiale de la radio 2019, comme ça ne vous a pas échappé. Un événement sous le patronage de l'UNESCO, le thème de cette 8e journée mondiale de la radio, dialogue, tolérance et paix. La radio nous informe, nous transforme et nous unit, lit-on sur le site de l'UNESCO consacré à cet événement. L'UNESCO, place de Fontenoy à Paris, qui nous accueille cette nuit. Alors, la première définition de la radio, définition basique, nouvelle, la palissade, c'est qu'on l'écoute. Ça, vous êtes d'accord, Sandrine Trainer?
Écoutez, Philippe Garbi, jusqu'à présent, bonsoir et oui.
Bonsoir. Mais on peut également la lire. Et quand je dis la lire et lire la radio, je pense évidemment à France Culture, dont vous êtes la directrice. Alors, en votre compagnie, nous allons parler quelques dizaines de minutes. Enfin, voilà, peut-être pas toute la nuit.
On ne sait pas.
On ne sait pas.
Peut-être ça va durer toute la nuit.
Oh, ça va être beau. Mais on va parler donc de cette revue papier, parce que tous les auditeurs des Nuits de France Culture ne connaissent peut-être pas cette revue. Ils ont tort, mais ils vont courir dès demain acheter en kiosque et en librairie cette revue papier, qui en est déjà à son numéro 27.
Eh oui. Oui, Philippe. En fait, c'est une revue qui est née, qui avait été lancée par mon prédécesseur, Olivier Poivre d'Arvor. À l'époque, cela s'appelait France Culture Papier et cela reposait sur l'intuition que... Alors, on n'était peut-être pas d'ailleurs exactement au même niveau de développement du numérique et des podcasts et des possibilités de conserver la radio, de garder la radio avec soi. Mais du coup, ceci explique cela. Là, il avait eu cette idée qu'il serait formidable de proposer à nos auditeurs de conserver sous la forme d'émissions retranscrites une partie de la production de France Culture.
Alors ça s'est fait comment? Parce que tout est formidable à l'antenne sur France Culture, bien entendu. Donc, qu'est-ce qui est périssable et impérissable?
Alors, au tout départ, dans la structuration de la revue, on avait à cœur de proposer, par exemple, dans chaque numéro, un dossier thématique avec plusieurs articles, se tirer d'émissions se répondant, un grand entretien, c'était généralement un avoinu. Aujourd'hui, ça a un peu bougé. Il y a les masterclass qui sont rentrés dans la production du magazine. On y viendra. Mais voilà, il y avait une forme d'organisation du contenu qui faisait que, vous savez, de toute façon, la revue a toujours été trimestrielle et donc on privilégiait ce qui fait le fond, ce qu'on appelle le fond du stock de la grille de France Culture, ce que vous utilisez, valorisez vous-même, Philippe, à travers les nuits, c'est-à-dire au fond, ce fond d'émission ou de fiction ou de documentaire qui ne vient jamais à se périmer.
Et ce qui est intéressant, donc on a vu ça très vite, c'est que c'est justement intéressant de lire ce qu'on a entendu ou ce qu'on n'a pas entendu, et ensuite peut-être avec les podcasts maintenant d'aller écouter ce qu'on a pu lire.
C'est-à-dire qu'on l'entend autrement. On l'entend autrement quand
avec
on
sa
le
propre
lit.
Voix, comme, voilà. Comme tout ce qu'on lit.
Oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Alors. En fait, la réflexion que nous avons eue il y a quelques années, maintenant ça remonte à il y a 2 ans, 3 ans, avec notre co-éditeur actuel, les éditions Exil, qui sont portées par Philippe Thureau d'Engin, qui est l'ancien patron de Courrier International et qui est devenu aujourd'hui le formidable rédacteur en chef de la revue qui ne s'appelle plus France Culture Papier, mais Papier. C'était de se dire, il faut que ce magazine, au fond, comme notre fil de podcast, comme notre fil d'antenne, soit un objet autonome, c'est-à-dire qu'il se nourrisse de France Culture, mais qu'il puisse être autonome, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme une revue de la vie, des idées, des savoirs et de la création, comme nous avons l'ambition de proposer à nos auditrices, nos auditeurs, chaque jour, une antenne assise sur les mêmes fondamentaux. Et on s'est dit, au fond, ce qui serait formidable, c'est que des gens puissent lire papier, puissent lire des contenus de France Culture sans savoir peut-être finalement vraiment que ça vient de France Culture, parce qu'on a toujours à cœur de développer et de diversifier les publics qui peuvent être amenés à s'intéresser à nos contenus. Alors comment fait-on aujourd'hui? En fait, nous construisons une véritable revue autonome dans sa ligne éditoriale qui se nourrit de manière très très prédominante des contenus de France Culture, mais qui rajoute, propose des choses qui ne sont pas dans les contenus de France Culture. Ça peut être des grands articles tirés de la presse internationale.
Inédit ou qui est repris, en effet, comme le faisait Courrier International.
Voilà, inédit ou repris. Et puis, il y a tout un travail sur l'iconographie et la photographie, avec un grand portfolio, par exemple, comme vous le savez, Philippe Garbi. Et là, par définition, le portfolio n'est pas à la radio. Donc aujourd'hui, papier, c'est ça. C'est ce travail qui part d'une réflexion éditoriale sur ce qu'est France Culture et qui va au-delà à travers le papier. Alors si on prend le dernier numéro, celui qui est en train de finir sa vie en librairie et en kiosque, c'est un numéro, vous voyez, alors, c'est tombé d'une certaine façon miraculeusement bien ou mal, selon... Mais le grand dossier, c'était « Sommes-nous encore démocrates ?» Et c'est un dossier qui s'appuyait sur un certain nombre d'émissions de production consacrée au monde de Trump, d'Orban, de Salvini, Bolsonaro. C'était un numéro qui a été organisé, pensé avant la crise sociale et politique que traverse la France aujourd'hui, qui est venue évidemment en résonance. Ça, c'est pour ce qui concerne le dossier, mais vous y trouviez un grand entretien avec Paul Virilio, qui est mort il y a peu. Et puis des émissions tout à fait, pour le coup, déconnectées de l'actualité, mais reliées à la vie des idées, des savoirs et de la création.
Alors, puisque la revue papier, partir quand même de la radio, quand même majoritairement, et de notre radio, Sandrine Trainer, nous allons faire l'exercice inverse, puisque nous allons passer du papier dont nous parlons au son, et on va écouter un extrait. Nous étions le 4 septembre 2018 sur France Culture, bien entendu, entre 7h et 9h, il devait être 7h, je suis un peu perdu dans les heures, 7h40, 45 peut-être. En tout cas, Guillaume Erner recevait le politologue allemand naturalisé américain Yascha Mounk.
Pour moi, la démocratie libérale est un système politique à part qu'il faut comprendre en ses propres termes, mais c'est aussi un système politique instable. Alors si on regarde par exemple le Venezuela, la Russie, la Turquie, ils sont tous passés par un moment qui ressemble assez bien à ce qui va se passer en Hongrie et même en Pologne. Il y avait un moment où il y avait la démocratie illibérale, mais il y avait encore des élections plus ou moins libres. Mais à un certain point, quand les gouvernements sont devenus de moins en moins populaires, ils ont utilisé leur pouvoir illimité pour abolir de plus en plus de libertés. Et c'est le moins, on est passé maintenant à ce point en Hongrie. Alors oui, c'est vrai que parce que Orban a manipulé le système tellement, il n'avait peut-être pas besoin de faire beaucoup de manipulations dans l'élection. Il y a des reports qu'il n'y en avait aucun, quelques-uns. Mais au moment où il perd vraiment de la popularité, je suis convaincu qu'il va manipuler les élections au point de la Russie, de la Turquie, du Venezuela.
Mais alors, on a également affaire à un autre argument de la part donc de ces défenseurs de ces régimes, qu'il s'agisse de défenseurs de Vladimir Poutine ou d'Erdogan, autrement dit du dirigeant turc Yascha Mounk. Et cette défense, elle consiste à dire que ces politiques, ces dirigeants, ils sont extrêmement populaires dans leur pays, autrement dit que le peuple, à la différence de dictature où il y a véritablement le joug d'un homme, un homme qui serait renversé si le peuple avait la parole, eh bien dans ces pays, en Russie, en Turquie, le peuple a choisi et finalement est plutôt heureux d'avoir ses dirigeants.
Sauf qu'à un certain moment, ces hommes politiques cessent d'être populaires. Alors oui, c'est vrai qu'à un certain moment, Poutine en Russie, Erdogan en Turquie étaient très populaires. Mais en fait, c'est pas du tout clair qu'ils le sont encore. Alors, en Turquie, par exemple, il y avait de fraudes massives dans les élections. Il a le contrôle presque complet à ce moment-là de la presse. Et quand même, Erdogan, dans les différentes élections, a eu 51%. Alors, c'est assez clair que si on aurait eu des élections vraiment libres en Turquie, il aurait perdu. La même chose en Venezuela, où Hugo Chavez, en certain moment, était certainement populaire. Mais maintenant, lui et son successeur, Nicolas Maduro, ne sont pas du tout populaires. Il y a des grands protestes contre le gouvernement, mais le gouvernement a pris tellement de pouvoir que c'est très très difficile de chasser un dictateur.
Yachamounk au micro de Guillaume Erner le 4 septembre 2018 sur France Culture. Alors voilà, c'est 5 mois plus tard. Tout est juste,
c'est même assez fascinant de l'écouter. Ce politologue américain a en effet publié un essai sur la question du populisme aujourd'hui, et vous l'entendez là à la fin de l'archive évoquer l'impopularité grandissante de Nicolas Maduro, dont on sait aujourd'hui qu'il est peut-être aux portes sortantes du pouvoir, en effet.
Alors, l'ensemble de ces entretiens est donc à retrouver dans le numéro 27 de la revue papier. Son livre, ça s'appelle « Le peuple contre la démocratie » aux éditions de l'Observatoire.
De l'Observatoire, absolument.
Voilà. Parce que là, ce numéro 27, bon, il a été pensé, réfléchi avant, à la fin de l'année dernière.
Oui, donc, mais c'était l'idée quand même que numéro allait sortir au seuil des élections européennes et le grand enjeu pour l'Europe, c'était précisément la question des types de gouvernement et donc du type d'Europe politique sur lequel nous allions être amenés à nous prononcer, comme vous le savez, le 26 mai prochain. Donc il y avait une raison.
Une résonance aujourd'hui.
Voilà, enfin, donc c'est pas totalement par hasard que ça résonne.
Dans cette revue et depuis des années, dans ce trimestriel papier, il y a des entretiens récents qui peuvent faire évidemment allusion à l'actualité. Mais il y a aussi des émissions qui sont de toute actualité. Par exemple, on va écouter un deuxième extrait. LSD, la série documentaire, c'est une série de Perrine Kervran réalisée par Annabelle Brouard. Ça s'appelait Liberté, Égalité, Transidentité.
Quand on veut dire sourire, folie, on dit Paris, Paris, Paris. Il y a là tout ce qu'on peut trouver pour embellir les idées. Quand on veut vivre et suivre sa vie, on dit.
Donc là, vous avez cheveux bouclés, assez clairs.
Oui, oui, et les cheveux sont blonds, là.
Et vous avez un.
C'est-à-dire, là, ils sont châtains. Oui, ça, c'est les bisons. Avec Coccinelle, il fallait avoir des bisons. Ça fait des frais, mais enfin, elle me nourrissait, elle me logeait. Depuis, naturellement, j'ai honte de mettre des bisons.
Quand on veut dire sourire, folie, on dit Paris, Paris, Paris. Il y a là tout ce qu'on peut trouver. Ah, c'est fini.
Coccinelle a fait un grand mariage.
A fait un grand mariage.
Public.
Public, public, publicitaire même, oui, oui. Et je me souviens d'une journaliste, elle lui demande, mais comment se fait-il que vous soyez mariée si vite après l'obtention des papiers? Croyez-vous qu'elle aurait dit par amour? Elle a répondu pour être la première.
Ben, vous savez, je suis allée à une soirée où j'avais une robe rouge avec des pastilles noires. Et on m'a dit, on dirait une coccinelle. Et j'ai gardé ce nom qui m'a porté bonheur aussi.
Le cabaret, c'est aussi des réseaux d'entraide. Et c'est très important aussi que ces personnes-là recontextualisent qu'est-ce que c'était qu'être trans de leur temps.
Karine Espinera est chercheuse en sociologie.
C'était, comme perspective professionnelle, pour beaucoup, c'était ça, quoi. Le cabaret ou rien.
Et cofondatrice de l'Observatoire des transidentités.
On disait qu'elles étaient plus femmes que les femmes. Ces stars, finalement, elles ne détonnaient pas plus d'autres, entre guillemets, femmes biologiques, entre guillemets, de leur temps. Coccinelle était une femme de son temps, Bambi était une femme de son temps, c'est juste qu'on a focalisé sur le fait qu'elles étaient trans. Coccinelle a une image, à un moment donné, négative dans les milieux militants, en disant, mais c'est à cause d'elle que l'État a verrouillé le changement d'état civil, etc. Quelque part, sa survisibilité et ses frasques, entre guillemets, nous ont porté tort. Alors qu'en fait, moi, je crois que c'était très intéressant ce qu'elle faisait d'exister dans l'espace public. Qu'elle ait voulu se marier, c'était très bien, elle a bousculé les institutions. Ce sont les institutions qu'il faudrait peut-être pointer du doigt en disant, mais comment, quelque part, ils ont puni les trans. Je trouve que cette visibilité-là, d'être out, c'était bien. On doit beaucoup à Marie-Pierre Prévost, donc Bambi, avec son coming out et le fait qu'elle revienne dans la visibilité, parce que d'un seul coup, elle a réinscrit quelque part l'ancêtre. C'est-à-dire les personnes trans ont des aînés, et ces aînés ont une histoire, et cette histoire aussi, ils et elles peuvent nous la transmettre.
Extrait de la série Liberté, Égalité, Transidentité de Perrine Kervran, réalisé par Annabelle Brouard, diffusé entre le 27 et le 30 août 2018, et donc dont on retrouve les plus grands extraits dans la revue papier numéro 27, quand les transgenres se racontent plusieurs pages, et en effet une iconographie intéressante.
C'était une série documentaire tout à fait événementielle. Nous en avions fait d'ailleurs la série documentaire de la rentrée. C'était la reprise du documentaire sur France Culture et Perrine Kervran qui du reste coordonne l'ensemble des émissions de la série documentaire avait fait un travail tout à fait étonnant, tout à fait détonnant. Et vous avez bien raison de le pointer, oui, bien sûr.
Et ce qui est intéressant, c'est de lire aussi en même temps que l'on entend, parce qu'évidemment, il y a un problème de transcription. Alors, on ne transcrit pas tout, parce qu'il y a...
Oui, il y a un gros travail qui est fait. Bien sûr, ce n'est pas du littéral, non pas qu'on ajoute, mais que l'on le remette dans une forme écrite.
Ce qui est difficile, ce qui est toujours un peu difficile.
Ce qui est un gros travail que produit notre camarade co-éditeur, oui, les éditions Exil.
Mais il y a aussi une parole qui est très littéraire parfois dans cette série, enfin qui on n'a rien à enlever en fait.
Oui, et peut-être on touche là à l'essence même de ce que nous aimons, de ce que nous partageons, de ce goût de la radio, c'est-à-dire la manière dont les mots de gens interrogés qui racontent une expérience, tout d'un coup ces mots s'assemblent et on a le sentiment d'être dans une forme de justesse formidable et de poésie. Voilà, ça peut pas se prévoir comme tel, mais souvent ça, ou parfois ça arrive et là c'était tout à fait le cas, vous avez raison de le souligner.
Alors la poésie mais aussi littérature, donc à quoi bon la littérature? Très bonne question que je vous pose, Sandrine Trenner, puisque ce titre ou cette question et sera en première page de la revue numéro 28.
Oui,
alors, le mois prochain.
Ce qui me permet quand même de saluer la proposition que vous aviez faite, puisque les archives honorent aussi la revue papier. Dans le numéro dont nous étions en train de parler, il y avait ce document formidable de Pérec. Hein, Pérec racontant, détaillant les petits et les grands projets qu'il ne fallait pas oublier de vivre avant de disparaître.
50 choses à faire avant de mourir.
Voilà, émission datant de novembre 1980. Oui, alors à quoi bon la littérature? Eh bien écoutez, vous savez qu'on est en 2019.
Oui.
Voilà, donc il y a 100 ans, nous étions en...
1919.
Pour un littéraire, c'est vraiment formidable cette réponse.
Vous allez me parler du prix Goncourt peut-être, 1919?
Eh bien non, je ne vais pas vous parler du prix Goncourt, encore que nous en parlerons. Le prix Goncourt décerné à Marcel Proust en 1919, nous en parlerons à l'antenne de France Culture cet été. Non, je vais vous parler de cette grande enquête qu'avaient lancée les surréalistes il y a 100 ans. Ils s'étaient adressés à toute une série de grands écrivains, d'écrivains de l'époque à qui ils avaient demandé pourquoi ils écrivaient. Et 100 ans après, nous avons eu envie de réévaluer, de repenser ce questionnaire surréaliste et de se demander ce qui faisait que dans un monde dont on sait à quel point il est surdéterminé par l'image, par la vitesse, les réseaux sociaux, etc., etc., pourquoi les écrivains continuent-ils à écrire? Et donc nous avons posé la question à près d'une centaine d'écrivains qui nous ont répondu, parfois de manière très courte, parfois de manière très longue, parfois
il y avait
par
pas
une élite.
Vous leur disiez
non,
pas en 10 lignes
il n'y avait pas de code.
Ou...
Non.
Oui, bon.
Et donc, au centre de ce nouveau numéro de la revue papier, il y aura cette question, à quoi bon la littérature? Et nous aurons les réponses des écrivains d'aujourd'hui.
Et quelques noms alors? Des Françaises, des Français, des étrangers.
On a plutôt demandé, posé la question à des Français. Écoutez, ça va de, je sais pas, de Christine Angot à Gwenaëlle Aubry, d'Aurélien Bélanger à Hervé Le Tellier. Voilà, ils sont des dizaines et des dizaines. Les réponses sont très contrastées, très différentes. Et c'est évidemment toujours là. D'ailleurs, peut-être l'année d'après, on pourra demander aux lecteurs pourquoi ils lisent. Ce serait le pendant. Et puis nous avons fait une autre chose à propos de littérature, Philippe. Nous nous sommes réunis, un petit groupe de productrices et de producteurs de France Culture, et nous avons travaillé avec nos mémoires et nos bibliothèques pour proposer les 33 romans qui nous paraissent importants de lire aujourd'hui pour comprendre le monde contemporain. Certains sont des romans d'aujourd'hui, certains sont des romans tout à fait anciens. Et ce sera une autre partie du dossier sur la littérature de ce numéro de 28. Les 33 romans qui permettent peut-être de comprendre un peu mieux cette époque troublée que nous traversons.
Alors le mois prochain, ça sera un petit peu avant le salon du livre. Donc
oui, ce sera à la mi-mars.
Photo
oui,
de couverture, vous le savez déjà.
Photo de couverture. Ah, on a hésité à faire une couverture avec uniquement avec des lettres et une couverture complètement graphique. Et on s'est dit que non, ce serait complètement ton sur ton. Et nous avons privilégié une photo et une photo qui d'ailleurs dont le photographe est l'objet du portfolio. Et c'est une photo que vous adoreriez. Vous allez l'adorer. C'est une photo qui monte une très grande bibliothèque et ça croule de bouquins. Dans tous les sens, et comme ça les bouquins surplombent, on voit, c'est des livres anciens, etc., surplombent l'image, et voilà quoi, bon, la littérature.
Alors comprendre le monde contemporain par les romans anciens, c'est une vérité, on peut aussi le comprendre peut-être, ou en tout cas se l'expliquer un peu par l'écoute d'anciennes émissions, peut-être y aura-t-il...
Voilà. Voilà, Et comment
peut-être y aura-t-il dans le numéro 28 une reprise de cette tribune de Paris dont j'aimerais vous faire entendre, auditrice, auditeur, et vous, Sandrine Trenner, directrice de France Culture, le tout début.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Métallurgie, essence, boulanger, cheminot. Dans le pays semble se développer ce que le président Ramadier a appelé hier un mouvement giratoire de grève.
Que faut-il penser de cette situation ? C'est ce que nous demandons ce soir au directeur des hebdomadaires d'économie générale.
Autour du micro sont réunis
Jean Cambournac, directeur de la tribune économique,
Didier Lambert, directeur de la vie française,
Manuel Molina, directeur des nouvelles économiques,
et Roger Rivado-Dumas, directeur de la semaine économique.
Paul Guimard va mener le débat.
Eh bien messieurs, on ne peut évidemment pas dire que la situation se soit améliorée dans les domaines économiques et sociaux depuis votre dernière émission. Donc, nous vous demanderons ce soir de nous dire quels sont, à votre avis, les motifs et les conséquences éventuelles de ces mouvements de grève qui tendent à se généraliser dangereusement. Jean Cambournac.
La campagne de grève et de manifestation qui s'est amorcée à l'occasion du remaniement ministériel se développe depuis quelques jours à un rythme inquiétant. Tour à tour, grèves et manifestations atteignent les points les plus sensibles de notre économie, aggrave le malaise social qui règne sur le pays et, sans contredit, risque de compromettre la difficile reprise de notre production.
En ce qui concerne les motifs, à votre avis ?
Sur les motifs de cette grève, il est difficile de se prononcer. Les revendications qui sont à la base de ces grèves apparaissent au premier abord justifiées. Il n'est pas contestable que la situation actuelle de la classe ouvrière, des classes laborieuses, le pouvoir d'achat dont elles disposent, sont absolument insuffisants. Cependant, on a l'impression que ces grèves n'ont pas à leur origine les causes apparentes qu'on pourrait leur prêter, mais qu'elles ont pour but, plus ou moins avoué, de réduire l'actuel gouvernement d'abord à l'impuissance et demain à l'abandon. Dans l'allocution qu'il a prononcée à la radiodiffusion mardi dernier, le ministre du Travail, M. Daniel Mayer, a très justement exposé la situation. Le gouvernement, soucieux d'améliorer, a-t-il dit, la condition de la classe ouvrière, a décidé d'accorder le minimum vital et d'accorder immédiatement, à dater du 15 juin et valant à dater du 1er juin, une prime à valoir sur la prime de rendement.
Le début de la Tribune de Paris, animé par Paul Guimard,
fascinant,
diffusé sur la chaîne nationale le 4 juin 1947. Alors, il n'y a pas de rond-point, mais il y a un mouvement giratoire de grève. Il y a des soupçons politiques, il y a une prime accordée, un avaloir. Alors, on pourra réentendre cette Tribune de Paris dans les nuits de France Culture le mois prochain. Mais donc, voilà, c'est ça aussi quand même la revue papier, c'est-à-dire soudain l'éruption d'un passé 1947, c'est lointain. Mais même septembre 2018, c'est déjà un peu lointain et c'est quand même, ça éclaire toujours tout.
C'est vrai. La seule chose qui va manquer dans la revue, c'est les petits raclements de gorge et puis les petits blancs de temps en temps. On sent que voilà, ça a un peu de mal à s'énoncer. Mais oui, bien sûr, c'est cette vieille affaire, non pas au sens de l'émission et de concordance des temps, qui fait d'ailleurs qui crée énormément de malentendus, parce que je pense que à la fois il est évidemment formidable d'entendre que au fond on pense toujours, puis on a envie de penser toujours qu'on vit de l'inédit, et à bien des égards oui on vit de l'inédit, mais en même temps quand on se penche un peu dans le passé on trouve de quoi se rendre compte que finalement la vie n'est pas si inédite que c'est là que cela, dans le même temps qu'on a trop souvent tendance à plaquer évidemment les temps du passé sur les temps du présent et à penser qu'il suffit de faire des comparaisons. Je crois que la comparaison ne sert pas à grand chose. En revanche, l'écoute des temps anciens, comme disait Marc Ferro, lui, elle est extrêmement productive, comme vous le savez.
Alors, à quoi bon
vous vous y dédiez, Philippe.
À quoi bon la littérature ? Ça sera dans le numéro 28 apparaître un petit peu avant le salon du livre, donc voilà. Mars prochain.
Voilà, entre le 10 et le 15 mars.
Voilà, mais en tout cas, la revue papier, elle est bien visible et on la trouve partout dans les kiosques. On la voit beaucoup dans les relais, dans les gares et puis dans les bonnes librairies. Merci Sandrine Trainer.
Merci à vous et bonne nuit.
La nuit de la radio, elle continue cette nuit puisqu'on va un petit peu s'amuser là parce qu'il y a aussi des radios pastiches. La radio a toujours aimé un petit peu se pasticher ou se parodier, se moquer d'elle-même. Et puis on entendra aussi une autre émission, une tribune de Paris avec Paul Guimard sur la radio 2. Information ou propagande. Et puis on aura un entretien avec Adama Pam, Vincent Defourny et Giovanna Hendel de l'UNESCO qui nous parleront de cette radio UNESCO dont nous avons déjà parlé avec Moëz Chakchouk en début de nuit. Eh bien, voilà, on retourne au son.